Amen. Alors, on va commencer par des témoignages. Je voudrais rappeler que ceux qui voudraient témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux, qu'ils viennent me voir. Là, on va reprendre le témoignage de Patricia, qui a encore vécu des choses formidables hier soir. D'ailleurs, Serge, qui a pratiqué la délivrance, va pouvoir aussi dire ce que lui a vu. Et parce que ce sont des témoignages vraiment édifiants. Vous savez, Patricia, elle passe à pratiquement chaque réunion, elle vit des délivrances. Parce que quand le Seigneur commence à s'emparer de quelqu'un pour le délivrer, je vous assure que c'est assez impressionnant en général. Et gloire à Dieu, hein, il y en a plusieurs ici qui ont vu le Seigneur agir réunion après réunion. Viens, Patricia, tiens. On va te passer le micro. Serge, tu vas pouvoir témoigner aussi. Tu pourras témoigner aussi de ce que tu as vu.
Alors. Je tiens à remercier tout particulièrement l'enseignement d'hier, qui pour moi était vraiment un enseignement divin sur la repentance. Donc à la fin de l'enseignement, quand j'ai voulu demander au Seigneur pardon de ne pas m'être repentie par rapport à mon père et par rapport à ma mère, que j'ai totalement éliminé de mes pensées, et j'ai prié le Seigneur de m'amener à la repentance, surtout par rapport à mon père. Et à ce moment-là, mon corps a commencé à trembler, j'ai commencé à avoir des manifestations, et je me suis dit que je ne voulais pas permettre cela, je ne voulais pas permettre aux démons d'agir, de se manifester de la sorte. Alors à ce moment-là, donc j'ai continué à vraiment à demander pardon pour mon père. Et à ce moment-là, en fait, j'ai ordonné aussi aux esprits de cesser de trembler, de provoquer cela. Et à ce moment-là, je voulais rester à ma place surtout. Je voulais pas venir devant. Et à ce moment-là, Michel a demandé aux personnes qui devaient se repentir par rapport à leur père de venir devant. Donc j'ai compris que le Seigneur me demandait de venir devant. Alors je suis venue devant et puis j'ai commencé à trembler, surtout du côté droit, la jambe, le bras. Et je me suis dit que j'étais enfant de Dieu, que mon corps était le temple du Saint-Esprit et que les esprits qui se manifestaient comme ça n'avaient aucun droit de me faire trembler, d'agir là. Et donc, je ne voulais pas leur permettre de se manifester, juste qu'ils partent sous l'onction de Jésus et du Saint-Esprit. Et en fait, à ce moment-là, j'ai tout simplement été paralysée. Paralysée, donc je ne pouvais plus ni bouger, ni je ne pouvais plus rien faire. Et donc je suis restée comme ça, j'ai attendu, et puis deux frères sont venus et ont commencé à prier, parce que je ne pouvais pas non plus parler, je ne pouvais pas parler. Et les frères ont commencé à prier, donc je leur ai indiqué ma jambe, qu'il devait y avoir quelque chose au niveau de ma jambe. Et en fait, à ce moment-là, donc il y a eu un esprit humain qui s'est manifesté de façon très claire, et qui a précisé, qui demandait où est-ce qu'on était, qui étaient ces personnes, qu'est-ce qui se passait ici. Et vraiment qui a pris le contrôle. Et moi, j'étais vraiment en retrait. Et j'avoue que j'ai eu quelques secondes, pas vraiment de peur, mais je me disais, mais comment ça se fait que je ne parvenais pas à reprendre le contrôle en tant qu'enfant de Dieu? Comment se fait-il que cet esprit pouvait autant se... Et les frères et sœurs ont continué à prier. Et à ce moment-là, à un moment, une sœur a dit que la mémoire lui revienne. Et à ce moment-là, l'esprit est vraiment parti. Il y a eu un combat quand même très fort pendant pendant un bon temps. Et je me suis vraiment sentie, quand j'ai été délivrée de cet esprit humain. Je pense que c'est vraiment un esprit humain. Voilà, oui. Voilà. Donc même. C'est vrai que les apparences peuvent cacher beaucoup de choses que le Seigneur sait. Et donc moi, je voulais surtout dire à ceux qui prient que, en fait, c'est vrai que personnellement, j'étais gênée de revenir prier devant. Parce que ce qui m'arrive, je souhaite que cela arrive à tous ceux qui en ont besoin. Et je ne volerai la prière de personne. Et vraiment, mais le Seigneur, en fait, a dit, va devant. Non, mais
c'est le Seigneur qui sait.
C'est le Seigneur qui sait. Et j'ai obéi. Il y a une chose aussi que je veux dire que le Seigneur m'a dit aussi, c'est que ce n'est pas terminé. Qu'en fait, il y a encore quelques démons. Il y a quelques démons, je le sais, parce
c'est
que...
C'est pas fini, hein.
Voilà, c'est pas fini, c'est
pas
c'est
fini, il y a encore deux jours.
Voilà, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur est puissant. Vraiment, il est puissant, il sait toutes choses. Et que...
ben, c'est amen. Vraiment, alors, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui ont procédé à cette délivrance, parce qu'il y a ce qu'elle a ressenti, et puisqu'on est dans un séminaire de formation à la délivrance, c'est bien de savoir aussi ce qu'eux ont vu. Alors, je ne sais pas si c'est Léonie.
En fait, j'étais avec Serge, et puis elle s'est avancée, et puis Serge lui a dit, mais avancez encore.
Oui, parce qu'en fait, à côté, il y avait une autre personne qui était aussi au sol, avec plein de secousses, tout ça, et donc j'avais peur que, bon, je tombe dessus, donc j'ai dit, avancez, et c'est là qu'elle a dit, je ne peux pas. Et on a vu, qu'elle était paralysée, mais juste d'un côté. C'est-à-dire, il y avait un côté qui était paralysé, l'autre pas. Elle était comme clouée au sol, quoi. On voyait bien qu'elle était ancrée au sol.
Donc, alors, on a commencé à invoquer le nom de Jésus. Et moi, vraiment, je suis époustouflée parce que Jésus est Seigneur. J'ai pas d'autre chose à dire qu'il est Seigneur et que vraiment, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Donc j'ai vraiment, c'est pas la première fois que je vois que Jésus est puissant, mais au fil du temps, je réalise de plus en plus que Jésus-Christ est puissant. Donc à un moment donné, on a continué, c'était très long, et puis elle s'est arrêtée, elle dit ça va. Bon, et Serge a trouvé que c'était bizarre. Non, bon, mais j'ai pas voulu insister. On peut pas forcer la main de quelqu'un. On peut pas la délivrer contre son gré. Mais on était là en train d'hésiter.
Oui, parce que le regard en fait était le regard était vitreux, les yeux étaient oui vitreux. Et puis on sentait bien que c'était quelqu'un qui parlait à travers elle. Quelqu'un parlait à travers elle en disant bon voilà ça va. Et elle, en disant ça, elle reculait un peu. Enfin bon, il y avait de la peur, il y avait.
Alors, donc, on a recontinué à invoquer le nom de Jésus. Et puis, à un moment donné, elle a perdu la mémoire. Alors, moi, j'étais... vraiment, c'est vrai qu'il faut rester ancré dans la prière. Parce que quand elle a perdu la mémoire, elle demandait, mais où je suis? Qui vous êtes? Qu'est-ce que je fais là? Donc, moi, tout de suite, j'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, mais est-ce que j'arrête? Je continue? Qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis dit, il faut continuer. Et puis, alors, à ce moment-là, ça m'est venu de lui demander, je l'ai appelée par son nom, je lui ai demandé comment elle s'appelle, et ça revenait pas toujours, Serge continuait à prier, et puis moi, je prenais autorité pour que sa mémoire revienne, donc j'ai demandé à ce que sa mémoire revienne. Et là, mais il fallait vraiment insister, prier, jusqu'à ce que... Voilà, le sang, et invoquer le nom de Jésus. Et à ce moment-là, c'est comme si elle sortait vraiment d'un coma. Et vraiment, je me suis dit, en fait, pour la délivrance, c'est vrai que des fois, quand on fait une délivrance, quand on est là pour prier pour quelqu'un, c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, parce qu'on ne sait pas où la personne, dans quel état elle se trouve. Il ne faut pas lâcher. Et c'est vrai que si on l'avait lâchée, elle serait partie et l'autre nous aurait eu, parce qu'à un moment donné, l'autre nous avait dit que c'était bon. Donc vraiment, il ne faut pas lâcher.
Voilà. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui disent, mais laisse-moi tranquille, je suis sortie.
Alléluia. Gloire au Seigneur.
Je vais demander aussi à Lucienne de venir. Alors, je voudrais quand même préciser, parce que ça nous dépasse un peu, toujours que le Seigneur dépasse... Ce qu'il fait dépasse notre entendement, mais je voudrais dire, Lucienne est pasteur de l'église luthérienne. Il y a ici des représentants de pratiquement toutes les dénominations. Dieu se moque des dénominations. Amen. On est dans une église réformée, avec un pasteur réformé qui nous soutient. On est, Lucienne est de l'église luthérienne. Hier, il y avait un pasteur qui était de l'église évangélique. Il y a même des représentants des églises ADD, gloire à Dieu. Il y a des représentants de presque toutes les églises qui sont là. Et ça, je sais que c'est une convocation de Dieu qui passe par-dessus les appellations d'église et même d'églises qui ne pratiquent pas la délivrance. Et c'est vraiment, on sent qu'il se passe quelque chose dans ce pays. Amen. Dieu est en train de remettre l'unité à sa manière, pas la nôtre. Alléluia. Je suis contre l'écuménisme, mais je suis pour l'unité de Dieu. Amen.
Amen.
Alléluia.
Eh bien, hier soir, quand nous avons prié...
Une seconde, je vais juste dire, j'ai demandé à Lucienne de témoigner parce que vous compreniez que ça concerne tout le monde, y compris les pasteurs, y compris les gens qui sont responsables, des gens qui sont dans le ministère, ont aussi des besoins de délivrance. Et le Seigneur en a manifesté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses ici. On a manifesté depuis le début. Ce n'est pas réservé aux tout jeunes chrétiens. D'accord ? On en a tous besoin. Amen. Merci. Pardon. Excusez-moi.
Voilà. Oui, hier soir, quand Michel nous a demandé de prier pour demander pardon pour les fautes de nos pères et de nos ancêtres, je me suis vraiment repentie pour certaines choses qu'ils avaient faites. Et j'ai vraiment ressenti une grande repentance dans mon cœur et un grand brisement. Alors que ça m'était jamais arrivé, bon, je trouvais ça désolant, mais je m'étais pas repentie moi-même. Et là, j'ai commencé à sentir, pendant qu'on priait, on était tous debout, là, j'ai commencé à sentir des secousses, et puis des sortes comme du courant électrique, enfin des frissons, et puis des secousses, des soubresauts, je me suis mise à bâiller d'une manière un peu bizarre, enfin, il y avait un souffle qui sortait. Et j'ai vraiment senti que j'étais délivrée d'une malédiction ancestrale. Alors, il y en a eu beaucoup de malédictions dues à des péchés ou dues à carrément des malédictions qui ont été dites. Et là, j'ai vraiment senti que le Seigneur me libérait de plusieurs de ces malédictions. Alors, ce n'est pas encore tout terminé, je l'ai senti. Mais bon, vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que... Et cette nuit encore, il m'a montré... d'autres choses pour lesquelles je dois demander la délivrance. Et je dois dire que depuis un mois, un peu plus d'un mois, il me prépare en me montrant des tas de choses qui se passent ou qui se sont passées par rapport à la délivrance, par rapport à un besoin de délivrance, par rapport à des malédictions, par rapport à des esprits humains, à toutes sortes de choses. Et le Seigneur me le révèle. Et ça devient une conviction, enfin, c'est gros comme une maison. Et alors je suis toute étonnée de ne pas y avoir pensé avant, voilà. Comme cette nuit où je me suis souvenue de quelque chose.
Faute de connaissance, voilà. Mon peuple périt.
Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que dit Michel, c'est qu'effectivement on a tous besoin de délivrance plus ou moins. Et qu'à un moment donné, elle appelait donc les serviteurs pour prier. Et puis moi j'étais là en train d'être délivrée, et quelque part je me suis dit mais... exagère, moi aussi je suis en train d'être délivrée là. Elle veut que je prie pour les autres, moi je vais en profiter un peu. Et puis le Seigneur m'a montré que non, qu'il ferait ça petit à petit, que ça serait spontanément petit à petit, puis peut-être dans des temps particuliers de prière, mais que j'étais là aussi pour prier pour les autres aussi. Donc Amen. J'ai obéi, voilà.
Parce qu'il y a de son courage, pas beaucoup de pasteurs qui oseraient venir dire... Ben, j'avais besoin de délivrance, j'ai été délivrée. Amen. Mais c'est encourageant pour tout le monde, non? Amen. Je veux vraiment remercier le Seigneur pour ça. Donc, s'il y en a qui, ce soir, au début de la réunion aussi, souhaitent apporter leur témoignage par rapport à des délivrances ou des guérisons qu'ils ont reçues, vous savez qu'il y a une grande force dans le témoignage. Hein, ça affermit et ça, c'est une position qu'on prend devant Satan. Hein, et donc, ça permet aussi de mieux... conquérir le terrain par rapport à tout ce qui nous a volé et dépouillé. Et on lui fait un grand pied de nez, en fait, à Satan, quand on va témoigner. Hein, quand Jésus a dit « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre », eh bien, c'est une grande force, le témoignage. Amen. Merci, Seigneur. D'accord. Alors, vous voyez, la technique, aujourd'hui, elle est... Il y a du combat. Alors, il nous demande quelques minutes, Serge.
Cette capacité de libérer les gens, c'est un grand miracle, la délivrance. Des vies sont vraiment transformées. Des malédictions qui s'arrêtent, des choses qui changent profondément. Comment est-ce que l'Église peut se passer de la délivrance? C'est impossible. C'est de la folie. Moi, je bénis le Seigneur de m'avoir donné ce service et de me donner de le transmettre parce que je veux dire que, avant, je faisais ça comme je pouvais dans toutes les églises où le Seigneur m'envoyait, mais maintenant, de pouvoir le transmettre, ça veut dire que j'ai une bonne nouvelle. J'ai eu des nouvelles ce matin. J'ai fait un séminaire similaire dans l'Est de la France il y a environ 3 mois. Et il s'est levé derrière une armée. Et vraiment une armée inter-église comme ça. Les gens ils ont juste à cœur de pouvoir intercéder ensemble, soit pour libérer des personnes, soit pour libérer les territoires. Et ce matin, j'ai eu des nouvelles comme quoi il y avait tout l'Alsace, il y avait tous les Vosges, il y avait dans toute la région est de la France, il y a des intercesseurs qui sont appelés et qui prient jour et nuit pour ce séminaire. Jour et nuit, dans le jeûne, dans la prière, il y en a plein. Ce qu'ils ont reçu il y a 3 mois, ils ont envie maintenant de bénir à Paris avec. Et donc c'est une grande joie. Et puis ils ont reçu plein de paroles d'encouragement qu'ils m'ont transmis. Donc vraiment, le Seigneur est en train de faire des choses fortes. Hein. Entre autres, qu'il y avait tout le temps des serpents qui voulaient. Alors, il ne faut pas s'étonner que les cordes de guitare sautent, que les choses, parce que l'ennemi est fou furieux de ce qui se passe. Je vous ai parlé des lignelets qui sont en train d'être brisés ici, ces lignes, parce que le Satan établit son royaume sur Paris, puis fort. Hein. Et là, on est en train de briser des choses là. Et on va les voir dans les mois qui viennent, on va voir des résultats de ce qui se produit ici. Et j'encourage ceux qui ont vraiment à cœur d'intercéder entre les deux réunions, de descendre et d'y aller, d'intercéder pour cette ville, pour cette église, ces lieux où on est, qui est le cœur de Paris, où il y a une histoire très pesante qui aliène toute la ville, qui fait que il y a un filet qui est étendu sur les habitants de cette ville, que la parole de Dieu a du mal à passer, mais nos armes sont spirituelles, car les armes avec lesquelles que nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Jésus-Christ. C'est ça aussi notre mission, hein. Et nous avons une puissance formidable. Il suffit simplement d'avoir la foi dans ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Alors, pendant que notre sœur faisait, je me suis rendu compte que j'avais oublié quand même de parler hier. C'est pas mon sujet de cet après-midi, mais c'est important. J'ai oublié 2 choses dans le cadre de ce que je disais hier. Je vais en parler rapidement. Quand j'ai parlé des esprits guerriers, j'ai oublié de parler d'une chose qu'on rencontre souvent dans la délivrance, les esprits militaires. Et très souvent, moi, il m'est arrivé d'entendre, mais moi, je suis un soldat, moi, je suis un capitaine, et ce sont des esprits guerriers. Et beaucoup de gens ont dans leur famille des gens qui ont embrassé la carrière militaire parce qu'ils avaient des esprits guerriers, et que ça permet, derrière l'uniforme, de tuer, sous prétexte de défendre la patrie, de pouvoir tuer impunément. Et dans les guerres, on a souvent eu des ancêtres qui ont fait des abominations, hein, qui ont tué, vraiment tué sans nécessité même, mais c'était couvert par l'uniforme, par la guerre, par les événements, etc. Et on a souvent des esprits qui se manifestent dans la délivrance, dans les esprits guerriers qui sont des esprits militaires. Et il m'est arrivé d'entendre, mais nous avons nos propres lois. Nous avons notre code militaire. J'entendais des puissances guerrières qui disaient ça. Et oui, j'ai dit, et tu vas te plier aux lois de Dieu. Et on doit, face aux lois militaires, mettre la loi de Dieu. Parce qu'ils doivent se conformer aux lois de Dieu et leur dire de sortir. Amen. Donc ça, c'est déjà une première chose. J'ai oublié hier, donc le Saint-Esprit me l'a rappelé ce matin. Et puis, la deuxième chose dont je viens de me souvenir, j'ai pas parlé, dans le cadre des esprits humains, des marins de nuit, des femmes de nuit. Or, ce sont des esprits qu'on rencontre très souvent. Les Africains sont très au fait de ces réalités. Quand on va en Afrique, c'est courant d'entendre, on chasse les marins de nuit, les femmes de nuit, et tout le monde est au courant, et personne n'a honte, tandis que sous nos latitudes, les gens n'osent pas parler. Et je voudrais quand même vous donner les conséquences de présence de Marie de Nuit. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Sachez que c'est un monde dans lequel l'homosexualité, etc., ça fonctionne dans le monde spirituel à fond la caisse. C'est une véritable prise de possession sexuelle par des esprits démoniaques. Mais derrière ces esprits démoniaques, il y a des sorciers, il y a des personnes, il y a des marabouts. Il y a des gens qui vont faire des envoûtements en allant voir des médiums, soi-disant, ou des sorciers pour des retours d'affection, pour littéralement emmener la volonté d'une personne, l'épouser contre son gré, en quelque sorte, par la séduction ou autre. On va parler des esprits séducteurs cet après-midi. Mais les maris de nuit, les femmes de nuit, c'est quelque chose qu'on trouve tout autant en France. Et je dis, autrefois, l'Église les connaissait très bien, sous le nom incube-succube, hein, pour les esprits masculins et féminins. Et les personnes, alors comment ça se traduit? Premièrement, souvent la personne, malédiction de célibat ou de divorce, sans arrêt, hein, n'arrive pas à avoir un mariage qui tienne, ou alors elle n'arrive pas à se marier, tout court. Deuxièmement, si elle se marie, très vite, il peut y avoir malédiction de stérilité, parce que ces démons prennent vraiment là. J'en ai parlé un petit peu, mais je vais aller un peu plus avant sur les signes. Troisièmement, ce sont des personnes qui ont des orgasmes nocturnes spontanés, ils ne savent même pas d'où ça vient. Ben, ce sont des démons, il faut le savoir. C'est pas du tout naturel. Ne croyez pas que ça soit quelque chose de naturel. Souvent, on a rationalisé. C'est pas du tout naturel. Et ça casse les ménages. Parce que très souvent, la personne qui a l'homme, le mari, quand le mari a une femme de nuit, ou quelquefois, et puis il y en a plusieurs, hein, il peut y en avoir quelquefois des vraiment belles. Et réciproquement, eh bien, elle prend son conjoint en dégoût. Et le problème, c'est que comme elle prend son conjoint en dégoût physique, elle impute la faute à l'autre. Alors, je vous dis pas les blessures, hein. Les blessures, ouais, c'est parce que t'es trop forte, t'es trop petite, t'es trop mince, t'es trop ceci, t'es trop cela. Et l'autre se sent vraiment rejeté, donc il y a des douleurs, et puis souvent ça se termine par des divorces. Tous les divorces sont dus à ça. Mais il y a beaucoup de problèmes dans les ménages qui sont dus à des choses. Et faute de connaître ce genre de choses dans les églises, on va faire de la morale, et puis, bon, c'est pas forcément mauvais, mais très souvent il y a besoin tout simplement d'une délivrance. Et sachez que comme les esprits humains, sortir les maris de nuit et les femmes de nuit sont des esprits très opiniâtres, très entêtés, et il est important de les connaître. Qui connaissait déjà sa réalité spirituelle? Ouais, bah, y en a beaucoup quand même qui les connaissent, hein. Amen. Et tous ceux qui font de la délivrance, ils sont confrontés, hein. Donc il faut surtout ne pas avoir de jugement, parce que les gens sont vraiment victimes. Et très souvent, derrière, il y a eu de la sorcellerie en arrière-plan. Alors, ça arrive non seulement par la sorcellerie, ça arrive par l'inceste, ça arrive par les viols, par les abus de toutes sortes. Ça arrive, bien entendu, par la fornication, quand les gens vont forniquer avec des marabouts ou des sorciers ou des choses, et semblent sans le savoir. Parce qu'il y a des sorciers déguisés, hein, même en chrétien, hein. Eh bien, après, très souvent, ils sont littéralement, la personne se les approprie sexuellement. Et ça réclame vraiment des délivrances. Et là, je peux vous dire que, là encore, des délivrances peuvent entraîner des grands changements, empêcher des divorces, empêcher que des couples se cassent, briser, enfin, des malédictions de célibat, de stérilité, etc. Enfin, des choses qui sont primordiales dans la vie. Primordiales. Amen. Donc, je voulais parler de ces esprits. C'est important. J'en ai pas parlé hier. Je devais en parler dans le cadre des esprits humains. J'avais pas encore commencé la moitié de mon message, qui avait déjà 2h15 de passé. Donc après, j'ai Serge qui m'attrape en disant ça tiendra pas sur les CD. Alléluia. Alors on va parler d'autres esprits aujourd'hui, qui sont beaucoup plus que des esprits, des petits démons, qui sont des dominations, mais des dominations qui ont des hordes de démons qui travaillent avec eux. Et qui peuvent bien entendu habiter les personnes ou lier carrément des églises. Hein. Nous allons parler de trois esprits féminins. Je vais parler d'ailleurs au départ d'un quatrième qui nous est cité dans la parole. Mais pourquoi des esprits féminins? Nous avons dit que Satan, dans son monde démoniaque, il a des esprits qui vont agir sur les sentiments, sur la séduction, sur... Toutes les choses, donc ils revêtent, pour ça c'est la ruse et la séduction, qui est une des grandes chose de Satan, hein, c'est par la séduction qu'il a eu Ève. Hein. Et puis, autrement, c'est la peur, l'intimidation, la terreur, etc., que Satan agit. Alors, donc, quand on a parlé des esprits humains, des esprits guerriers, etc., ce sont des esprits masculins. Mais on va parler d'esprits féminins, qui sont clairement dénoncés dans la parole de Dieu, hein, et qui viennent plier les peuples, les nations, le monde, par la séduction et le sentimentalisme. Alors, on va quand même déjà commencer par Zacharie 5. Je voudrais déjà dire Zacharie 5, 3. C'est Dieu qui parle. Et il dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Et on a parlé des malédictions. Quand un pays est dans la désobéissance, tout d'un coup, Dieu lâche la malédiction. Et je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Waouh. Hein? Même la malédiction, Dieu peut l'envoyer dans la maison du voleur pour qu'elle consume toute la maison. Et quand elle consume toute la maison, il n'y a pas que les bois et les pierres, il y a aussi les enfants et toute la famille avec et leur avenir. Alors quelquefois, on ne sait pas pourquoi on a des malédictions de ruines, mais parce qu'on a eu des pères qui ont volé, qui ont dépouillé d'autres. Vous savez, la loi du talion, hein, œil, dent pour dent. Très souvent, on ne comprend pas pourquoi il y a des malédictions. Mais cherchons souvent, parce qu'il y a le corollaire, on reçoit ce que nos pères ont fait, dans l'autre sens. C'est aussi une des voies pour comprendre le pourquoi de la malédiction. Très souvent, on perd un enfant parce qu'on a des pères qui ont tué des enfants. Dieu est juste, sachez-le, Dieu est juste. Simplement, nous, notre justice est en décalage parce qu'on ne comprend pas que Dieu, lui, a appesanti son main sur toute une famille. Et on a expliqué vraiment qu'on a une grande responsabilité parce que nos actes se répercutent aussi sur nos enfants. Et la bonne nouvelle, c'est que les enfants peuvent racheter tout le monde par la repentance comme on l'a fait hier soir. Amen. Et amène de la bénédiction dans toute la famille. Et ça va au-delà. Vous rappelez-vous? Rappelez-vous le marchandage qu'Abraham a fait avec Dieu pour que Sodome ne soit pas détruit. Mais s'il y a 50 justes, ah, je vais prendre la ville, dit Dieu. Et puis, peut-être un peu moins là, je peux peut-être baisser un peu. Et puis, il n'y a pas 10 justes. Et 10 justes auraient suffi pour épargner toute la ville. Amen. Il n'y en avait pas 10, hein. Il y en avait un, Lot. Ça a quand même sauvé toute sa famille, sauf sa femme qui a regardé en arrière. Mais nous voyons par exemple en Jérémie 5, où Dieu dit, Jérémie 5, 1, si je trouve injuste, on a parlé de l'exil et de la dispersion de tout Israël, et Dieu qui dit, si je trouve injuste à Jérusalem, dans le peuple de Dieu, dans la ville du grand Dieu, si je trouve injuste, un seul juste à Jérusalem, j'épargne toute la ville. Waouh. Vous vous rendez compte de la bénédiction qu'on peut être quand on marche avec le Seigneur, pour notre famille, pour notre ville, pour notre quartier? Waouh, ça fait réfléchir deux fois. Hein. Oui, il y a des malédictions. Mais quelle bénédiction quand on obéit à Dieu. Amen. On est des porteurs de bénédictions. Quand Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive sortiront de son sein. Spirituellement, c'est une réalité. Amen. Alors, donc, il dit après, l'ange qui parlait avec moi, à partir du verset 5, en Zacharie 5, 5, l'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Je répondis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Donc vous voyez, dans la parole, l'iniquité est représentée par une femme. Spirituellement, parce qu'il y a de la séduction dans l'iniquité. Il nous est dit, par exemple, que Moïse a résisté à la séduction du péché. Il y a une séduction. Elle se présente d'une manière séductrice. L'iniquité, la désobéissance à Dieu, Satan sait manier l'iniquité. Mais elle se présente sous la forme d'une femme. Comme ça, on est moins paniqué. Bon. Qu'un homme avec des gros biceps. Et il la repoussa dans les phas et il jeta sur l'ouverture de la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai. Et voici deux femmes parurent, donc en voilà déjà trois. Le vent soufflait dans leurs ailes. Ah oui, bon, c'est des femmes, mais elles ont quand même des ailes, hein. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, il y avait beaucoup de représentations animales. Beaucoup. Dans l'Apocalypse, vous avez des drôles d'animaux, hein, franchement. Il y a les têtes de ceci, la queue de serpent ou de scorpion, corps de cheval, tête de lion. C'est des drôles de bêtes. Mais ce sont des représentations à la fois symboliques, mais en même temps, il y a des réalités spirituelles derrière. C'est pour ça que vous étonnez pas quand on dit que... Et très souvent, on voit dans les délivrances, évidemment, on a beaucoup de serpents, hein, mais quelquefois, on voit d'autres animaux. Le Seigneur nous montre d'autres animaux, hein, des esprits animaux, littéralement, c'est des démons qui sont déguisés sous forme animale, et les esprits humains aussi se déguisent sous forme animale. Et il me répondit, elles enlevèrent les phas entre le ciel et la terre. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phas? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Vous savez ce que c'est que le pays de Shinéar? C'est l'Irak. Durant l'Irak, c'était l'ancienne Shinéar, c'était Babylone. Hein. Et quand elle sera prête, elle sera déposée là, dans son lieu. Dans l'Apocalypse, il nous est parlé aussi d'un endroit où Satan a son trône. Et il y a des lieux de prédilection hein, pour les esprits mauvais. Et là, on nous dit que le cœur même de la méchanceté du monde se situe dans ces lieux-là. Alors, quand on regarde l'actualité, regardons-le avec les yeux spirituels. Il se passe beaucoup de choses. Amen. Donc, nous voyons là qu'on nous parle dans le monde spirituel d'esprits féminins. Alors, on va vous parler de trois grandes dominations qui sont évidemment directement sous la coupe de Satan et qui sont sous des formes féminines. Dont on parle dans l'Église, entre nous, dans n'importe quel sens. Faute de bien comprendre la parole de Dieu. Donc, je voudrais essayer de remettre un peu d'ordre. Qui n'entend pas parler tout le temps, « Ah, celle-là, c'est une Jézabel, celle-là, c'est une Jézabel. » Toute femme qui a un peu d'autorité, c'est automatiquement une Jézabel. Il y en a. Et les esprits de Jézabel sont très répandus. C'est une réalité. Mais dans l'esprit de la plupart des chrétiens, la femme Jézabel, c'est celle qui porte le pantalon chez elle et dont le mari, il est là, marche à la baguette, hein, ou qui s'impose partout. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ça va bien au-delà de ça. Et nous allons voir qui est le vrai responsable. Et là, ça remet les pendules à l'heure, comme dit l'autre. Parce que c'est toujours la parole de Dieu qui est notre fil à plomb pour savoir où est la vérité. Amen. Satan sait même tordre la parole de Dieu dans l'Église. Alors on va lire Jézabel, nous allons le voir, c'est une femme qui a bien sûr qui a existé dans l'histoire d'Israël, qui a été une reine hein, d'Israël, qui était fille d'un roi, Ed-Baal, roi de Sidon, et c'est une femme qui a bel et bien existé. Mais vous savez que dans la plupart des personnages, beaucoup de personnages de l'Ancien Testament sont des archétypes de qui certains étaient complètement démonisés. Donc c'est pour ça qu'on peut appeler les démons par leur même nom, ou les principautés démoniaques par leur même nom. Vous avez d'ailleurs dans l'autre sens, même Jésus a dit, pourtant on sait bien que la réincarnation n'existe pas, il a dit de Jean-Baptiste, c'est lui l'Élie qui devait revenir. Bon, c'est pas Élie qui s'est réincarné, mais Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Hein, faisant bien la différence entre l'âme et l'esprit, comme je l'ai dit hier. Hein. Donc c'est un esprit, c'est tout simplement l'esprit de vérité. Et l'esprit Élie, c'est un esprit fort, c'est un esprit prophétique qui n'hésite pas à confronter toutes les autorités au risque de sa vie pour dire la vérité par amour. Par amour, pour sauver les gens. Et merci au Seigneur de ramener, parce qu'il a promis qu'à la fin des temps, il y aurait des Élie qui reviendraient, hein, et qui prépare le chemin du Seigneur. Donc les Élie, ce sont des gens, prophètes, qui se lèvent, qui n'ont pas peur, qui se moquent complètement de ce qu'on peut penser d'eux, qui ont qu'une soif, c'est de dire la vérité. Jean-Baptiste y a perdu sa tête, Élie a terminé scié en deux dans un tronc d'arbre. Faut le savoir, Oui, le prophète Élie a terminé, on l'a enfermé dans un tronc d'arbre, on l'a scié en deux, Hébreux 11 y fait allusion. Enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas peur de la vie, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont que peur de ne pas dire la vérité. C'est un esprit formidable. C'est l'esprit de Dieu, tout simplement. C'est l'esprit de Jésus qui disait aussi la vérité, même quand ça a dû lui coûter la vie. Amen. Donc, puisque la parole de Dieu nous encourage vraiment à comprendre qu'il y a des archétypes, on nous parle dans, je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine d'aborder du tout ça, parce que ça en fait partie, on nous parle de Balaam qui, dans l'Apocalypse, attendez, Balaam, on le retrouve en nombre 23 au moment de l'Exode, 3000 ans avant. Alors qu'est-ce qu'il fait après, dans l'Apocalypse? Mais ce sont des esprits. Et cet esprit de Balaam, il est omniprésent et le Seigneur m'a révélé il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé d'ailleurs un article qui est passé sur des médias internet, que c'était le précurseur de l'écuménisme qui consiste à faire l'unité en oubliant tout ce qui dérange et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On ferme les yeux sur des abominations pour faire une unité babylonienne, qui est une unité contre Dieu, qui n'a rien du tout d'une unité en Christ. L'unité se fait seule dans la vérité de la parole. Et la parole, c'est de A jusqu'à Z, de l'alpha à l'oméga. On ne fait pas, moi je suis, quand j'ai dit contre l'écuménisme, parce que l'écuménisme qui consiste à réunir tout le monde sous une même bannière et à taire toutes les vérités bibliques qui peuvent déranger de peur de perdre un petit bout de ceci ou un petit bout de cela ou une appellation, ça c'est pas de Dieu du tout. Par contre, la parole de Dieu nous parle de la grande prostituée qui va s'installer à la fin des temps et qui va rallier tout le monde sous sa bannière. Et comme on y est, ouvrons les yeux. Alléluia. Bon, je fais juste une toute petite allusion. J'aurais espéré avoir le temps vraiment de parler de toute l'apostasie qui arrive maintenant. Mais donc, Balaam, pour perdre le peuple de Dieu, il n'avait pas pu le maudire, eh bien, il lui a fait faire des alliances avec les Moabites et les Madianites. Les Madianites étaient les descendants d'Abraham, et les Moabites étaient les descendants de Lot. Ils confessaient le Dieu d'Israël. Ils prétendaient avoir le même Dieu que le peuple d'Israël, mais ils avaient en même temps d'autres dieux, des idoles, et ils ont perverti le peuple d'Israël. Et il a fallu finir pour casser ces alliances et puis ramener tout le monde dans la vérité. Donc c'est ça l'esprit de Balaam. On nous en parle, hein. On nous en parle justement dans l'Apocalypse parce que c'est un esprit, il est omniprésent. Satan, il refait toujours les mêmes coups et puis comme ça fonctionne, il continue. Amen. Mais j'en parle parce que je vais parler des esprits qui viennent pervertir l'Église, là. Elles pervertissent le monde, mais elles pervertissent aussi l'Église. Ce sont des esprits féminins. Donc on va parler de Jézabel, on va parler de la Reine du Ciel, et on va parler de la sirène. Amen. Alors Jézabel, donc on nous en parle dans l'Apocalypse, on va lire. Donc 2000 ans après que la Jézabel terrestre ait vécu, enfin pas tout à fait 2000 ans. Et voilà ce que la parole de Dieu dit en Apocalypse 2:20. On commence par, comprenons bien que Dieu s'adresse à l'Église, à l'ange de l'Église, comme s'il y avait une unité, justement, spirituelle. Hein. Il s'adresse à l'ange de l'Église et il dit à cette Église, attendez, il n'y a pas beaucoup d'Églises à qui Dieu, si elles entendent ses compliments, c'est quand même formidable. Je connais tes œuvres, ton amour, waouh, déjà c'est beau, hein. Ta foi, ton fidèle service, il n'y a pas beaucoup d'églises dont Dieu pourrait dire ça aujourd'hui, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Donc il n'est pas en train de parler à une église diabolique. Il est en train de parler à une église qui a l'amour fraternel, qui a la foi, qui fait des œuvres fidèles, conformes aux œuvres que Dieu demande, et même qui s'accroît dans ses œuvres, des œuvres bonnes, pas les bonnes œuvres, mais les œuvres bonnes, c'est-à-dire les œuvres préparées d'avance par Dieu, qui est fidèle. Et voici ce que Dieu dit. Mais ce que j'ai contre toi, je souligne ce mot parce que nous allons voir l'importance. C'est que tu laisses la femme Jézabel. qui se dit prophétesse. Alors, c'est pas une réincarnation dont on nous parle, d'une puissance démoniaque qui habite beaucoup de personnes, parce que les puissances démoniaques, elles s'incarnent. Qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La plupart du temps, quand on lit ces versets, on ne se sent pas du tout concerné parce qu'on comprend pas du tout ce que ça recouvre. Mais en fait, ça recouvre des choses bien réelles et c'est une prophétie, et cette prophétie est rentrée dans l'Église et a perverti l'Église dès les premiers temps. Pour qu'il se livre à l'impudicité, mange des viandes sacrifiées aux idoles, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. On retrouve toujours cette notion de temps, de la patience de Dieu qui envoie de multiples avertissements jusqu'au moment où. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je vous l'ai dit, prostitution physique, spirituelle vont de pair dans la parole. Voici, je vais la jeter sur un lit comme une malade. Il est dit en Apocalypse 22, les feuilles de l'arbre de vie servent à guérir les nations. Mais l'Église aussi est malade. Je vais lui envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, c'est-à-dire ceux qui s'associent avec cet esprit. Quand je vous parlais de l'écuménisme, on nous parle aussi de toutes ces alliances malsaines avec des gens qui sont dans l'idolâtrie et l'impudicité, car Jézabel signe l'idolâtrie, nous allons le voir. Dans les temps anciens, et nous allons voir comment elle procède, nous allons voir combien c'est encore vrai aujourd'hui comme esprit dans l'Église. Et Jézabel s'introduit avant tout dans l'Église, parce que ces trois esprits ont pour mission de casser le peuple de Dieu et de le détruire de l'intérieur. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai périr de mort, ses enfants, mourir de mort. C'est Dieu dit, mais tous ceux qui sont dans les enfants sont ceux, les fidèles de cette Église. Et toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc on associe cet esprit subtil, malin, aux profondeurs de Satan, aux choses parmi les plus subtiles que Satan sache faire pour pervertir l'Église. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne, à celui qui vaincra. C'est répété 7 fois, chacune des églises, à celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Waouh ! Il les pétera avec une verge de fer. On nous parle du millénium. On ne nous parle pas d'une petite victoire, on ne nous parle pas d'un petit combat, on ne nous parle pas de petits esprits un petit peu dérangeants qui font que la femme a un peu trop d'autorité. Ça n'a rien à voir. On nous parle de quelque chose de beaucoup plus important. Nous allons comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, on va essayer de parler de cet esprit, qui est un esprit redoutable, qui s'introduit dans le peuple de Dieu, qui peut bien sûr s'incarner dans des femmes, mais encore plus dans des hommes que dans des femmes. Parce que ce n'est pas les femmes qui ont dirigé l'Église depuis des siècles. Mais l'esprit de Jézabel a dirigé l'Église. Beaucoup d'Églises, et toujours beaucoup d'Églises. On va voir tout ce qu'il y a derrière. Alors Jézabel, on va parler de Jézabel. Jézabel donc est l'épouse du roi Akab. Akab est le fils d'Omri. Omri est un roi parfaitement idolâtre. Akab a reçu de son père cette idolâtrie. Ça fait partie des héritages qu'il a reçus. Et il a endossé les chaussures de son père côté idolâtrie. Et il met encore plus de comble à son injustice parce qu'il va faire une désobéissance grave, il va épouser une femme étrangère. Si Dieu avait interdit au peuple de Dieu d'épouser des femmes étrangères, c'est parce qu'elle les pervertissait par leur faux Dieu. Et pour nous, c'est toujours pareil. Attention aux alliances avec des gens qui ont des faux dieux et des idoles. Les temps n'ont pas changé. On peut faire des alliances terribles. Donc, Jézabel parvient à s'introduire tout simplement parce que Akab est un roi qui est désobéissant et idolâtre. Et donc, Jézabel entre. Alors, on va voir un petit peu certains signes. Bon, il y a 5 chapitres à peu près qui sont consacrés à tout cet esprit. Il y a l'histoire d'Akab et de Jézabel, parce que c'est tout sauf rien. Et c'est à partir de 1 roi 17 qu'on nous parle, c'est associé également au ministère d'Élie, hein, parce que face à Jézabel, Dieu a mis Élie, mais il n'a pas mis qu'Élie, il en a fallu d'autres, il a mis Jéhu aussi, et il a mis d'autres prophètes, et il a mis Élisée aussi, enfin bref, il a fallu pas rien pour vaincre cet esprit et faire le nettoyage, hein, et puis elle a laissé son héritage à travers Athalie, qui a fait la même chose qu'elle, et finalement tout le monde a péri, hein, il a fallu que Dieu nettoie tout ça par la mort. Alors donc on voit déjà à partir de 1 roi 18, Élie voit se présenter devant Akab, et on va lire à partir du verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel, c'est comme il ne supporte pas la vérité. Il zigouille les vrais prophètes. C'est toujours vrai. Ça a toujours été vrai. Les gens qui disent la vérité, quand on les zigouille pas, parce qu'on peut plus les zigouiller, quand on les empêche de parler, on les jette dehors, ils dérangent. Ils dérangent. Et derrière, il y a l'esprit de Jézabel. Jézabel est une tueuse des vrais prophètes pour mettre à la place ces faux prophètes. Prophètes lénifiants, qui disent, comme le dit 2 Timothée 4.1, ou 4.2 et 4.3, pour la fin des temps, que les gens ne voudront plus écouter que ce qui est agréable à entendre, eh bien, Satan a très bien entendu cette parole, et il sait que face à des gens qui ne veulent pas entendre la vérité, ben, il suffit de mettre des faux prophètes. Et les gens les accueillent à bras ouverts. C'est une vérité, il y en a partout actuellement. Je ne le dis pas pour faire une critique, c'est parce que la parole nous annonçait qu'il serait ainsi dans les derniers temps. Il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Il y a des fausses doctrines qui nous sortent de tout le temps. Ça me fait penser, j'ai un frère, c'est Marie de Brigitte d'ailleurs, qui est avec nous là en ce moment, Dominique Lelieu, c'est lui qui a organisé la marche pour Jésus. Et il m'a envoyé un petit mail que j'ai eu que ce matin, où il me rappelait que, je vais en parler, une petite parenthèse, puisque j'ai parlé du vide de l'esprit qui faisait partie de l'occultisme, me rappelle qu'aujourd'hui, dans l'Église, on pratique le soaking, c'est-à-dire faites le vide, faites le vide, faites le vide. Et moi, déjà, je l'avais dénoncé sur un site chrétien en disant, mais vous êtes en train de proposer aux gens des trucs occultes, est-ce que vous l'ignorez que c'est ce qui se pratique dans les ashrams et dans le New Age et dans le yoga, oui, c'est ça, je cherchais le mot. C'est de faire le vide pour que des esprits rentrent. Puis on se met petit à petit en transe et on appelle des esprits, mais pas l'esprit de Dieu. Ben voilà, des fausses doctrines qui rentrent, allez, faites le... Et puis les gens, les foules qui courent après ça, parce qu'ils vont avoir des sensations, des trucs. Enfin, c'est bourré actuellement d'apostasie, de fausses doctrines, de choses, millennium now, etc. C'est, je veux dire, ouvrons les yeux, n'allons pas n'importe où, que regardons vraiment les Écritures, demandons au Saint-Esprit, on peut pas faire n'importe quoi. La parole nous a annoncé que la fin des temps serait terrible, que la séduction serait omniprésente, qu'on entendrait n'importe quoi, qu'on vivrait n'importe quoi. Soyons sérieux, on ne peut pas admettre ça. Alors, faisons le vide, on va accueillir les esprits, allez hop, ouvrons-nous. Moi j'ai vu ça, un jour je reçois un mail, ouvrez-vous, soi-disant une prophétie qui venait de Canada, qui avait circulé devant 52 000 personnes aux États-Unis. C'était ouvrez-vous, vous allez recevoir un ciel ouvert, surtout restez que bien passif, statique, mais attendez, c'est de l'occultisme à l'état pur qu'on nous propose. soaking, allez, vous allez vous secouer, là, faites bien le vide, vous allez recevoir des esprits. Quel esprit ? Quand la parole de Dieu dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », c'est pas en faisant le vide de l'Esprit qu'on est rempli du Saint-Esprit, mais en obéissant à Dieu, en priant, en intercédant. Priez sans cesse, dit la parole, faites pas le vide. Pas du tout la même chose. Alléluia. Alors donc, Jézabel, premièrement, elle tue les vrais prophètes, ceux qui disent la vérité. Elle les extermine. Quand on ne peut pas les exterminer physiquement, on les extermine de la langue. On les marginalise. Regardons, je vais juste, parce que comme c'est juste derrière, mais on va parler d'Akab, bien entendu, derrière. On est dans un temps où la famine règne en Israël. Et regardez ce que fait Akab, le roi d'Israël. Regardez l'amour qu'il a pour son peuple. Il a une préoccupation principale, Akab. On voit ça au verset 5. Akab dit à Abias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Tout le monde est en train de mourir de manque d'eau, de manque de nourriture. Alors là, on s'arrête là en disant, ah, quel bon roi. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux. Abias avait beaucoup d'amour pour ses chevaux, mais pour le peuple de Dieu, pas des masses. Hein. Et aux mulets, ça s'élargit son amour. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Vous voyez un petit peu les préoccupations du roi pendant que le peuple est en train de mourir de faim et de soif. Il a des préoccupations. Oui, il travaille beaucoup à Akab, on va le voir. Il travaille beaucoup à Akab, mais pas à ce que Dieu lui a, pas à la position que Dieu lui a donnée. Et nous allons voir l'importance dans tout ça. Donc, on va lire un petit peu plus loin. Verset 19. C'est Élie qui demande que soit rassemblé au Carmel, ce fameux épisode du Carmel, où il demande que soit rassemblé. Alors, lisons ça. Faire rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Quand on tue les vrais prophètes, on les remplace par des faux prophètes. Les faux prophètes sont des courtisans qui disent toujours aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, qui disent toujours aux gouvernants ce qu'ils ont envie d'entendre, aux pasteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Et quand on a l'esprit de Jézabel, on remplace les faux prophètes par les vrais prophètes par des faux prophètes qui disent toujours ce que vous voulez qu'ils disent. Ça, c'est une des caractéristiques de l'esprit de Jézabel. Vous voyez bien qu'on est en train de sortir très nettement des petits esprits qui peuvent, soi-disant, toucher certaines femmes. D'accord ? On est en train de parler d'une domination satanique extrêmement puissante. Alléluia. Elle s'entoure, bien entendu, de faux sacrificateurs. On les voit d'ailleurs, tous ces prophètes au Mont Carmel, ces prophètes de Baal et d'Astarté qui vont faire des véritables cérémonies sorcières avec scarification, des danses pendant toute la journée. C'est là que Élie se moque d'eux, hein, parce que évidemment ils sont impuissants. C'est dans 1 Roi 18, un petit peu plus loin. Jézabel a une autre caractéristique, et là on va voir tout l'épisode qui est extrêmement important, parce que dans l'Ancien Testament, la vigne symbolise la future église. Certaines femmes l'ont symbolisée, mais la vigne, on nous parle du figuier pour Israël, et on nous parle souvent de la vigne pour symboliser la future église. Le Cantique des Cantiques nous parle beaucoup de la vigne, et on sait que tout le monde s'accorde à dire que le Cantique des Cantiques est vraiment un chant du Messie à son épouse aussi. Hein. Donc, voilà. Ce qui se produit, c'est que donc il y a Naboth. Naboth a une vigne. Il est le gardien de la vigne dont il a hérité de ses pères. Et Naboth, pour Naboth, il n'est pas question de céder cette vigne à qui que ce soit. Moi, vous savez, j'ai entendu des témoignages directs, hein, de pasteurs qui m'ont raconté comment des gens étaient arrivés et leur avaient proposé de leur acheter leur église. C'est intéressant, hein. Je t'achète les, pas les murs, hein, les hommes. que tu me laisses ta place, je te promets, je te sers un salaire à vie. Plusieurs, hein. J'ai eu plusieurs. Ils veulent s'emparer de la vigne d'autrui. Quand Dieu confie une église à quelqu'un, une assemblée à quelqu'un, c'est à cette personne qu'il a confiée, pas à d'autres. Hein. Il y en a qui arrivent toujours dans les églises, hein. Et puis qui veulent s'emparer. J'ai une amie qui est femme pasteur à Vital, et elle m'a raconté ce qui lui était arrivé. Elle avait donc bâti une église parce que Dieu lui avait demandé, qu'elle avait reçu ça de cet appel du Seigneur. Et un jour, elle voit arriver un homme qui faisait partie de son église, qui lui arrive et qui lui dit d'un ton péremptoire, Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a dit que tu avais bien travaillé, mais que maintenant, puisque tu étais une femme, il était normal que tu cèdes ta place, et donc c'est à moi que le Seigneur confie l'église. Il disait ça avec un tel aplomb qu'elle restait crôlée sur son siège, en se disant, Seigneur, si c'est ta volonté. Tellement, il y avait un culot monstre dans le... Puis vraiment, Dieu m'a dit. Ah, ça cloue, hein, ça. Puis elle était là, elle n'était pas tout à fait en paix. Et puis, il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas parlé en direct, le Seigneur, si c'est vraiment sa volonté? Pourquoi ce n'est pas à moi qu'il a parlé? Pourquoi c'est à l'autre qu'il a parlé? Et puis tout d'un coup, elle a compris. Elle lui a dit, je suis désolée. Et c'était lui qui avait l'esprit de Jézabel. Hein. Il voulait s'emparer de la vigne de l'autre. Hein. C'était pas elle. Et quand il est revenu à la charge, je lui ai dit, je suis désolé, mais Dieu m'a dit le contraire. Alors, il y a un de nous deux qui se trompe. Si vraiment Dieu veut que tu montes une vigne, je pense que tu peux aller planter ta vigne ailleurs. Alléluia. Et ça arrive assez fréquemment, croyez-moi. Alors donc, nous voyons Jézabel, Naboth donc a une vigne, et Acab, il est là. Alors, c'est plein de symboles. Plein d'humour, mais je vous assure que ce sont des réalités qui ne sont pas humoristiques. Acab rêve de la vigne de Naboth qui est tout près de son palais parce qu'il rêve d'en faire un jardin de légumes. Vous savez, la vigne, c'est pétillant. Le fruit de la vigne, c'est quand même, ça symbolise le sang de Christ. Ça apporte la vie, c'est vivant une vigne. Et le sang de la vigne, c'est un symbole fantastique. Ça pétille, ça se transforme, ça devient du vin vieux. Et on a plein de symboles dans le Nouveau Testament autour du vin. Naboth, lui, va en faire un jardin de légumes. Il y a beaucoup d'églises qui sont devenues des jardins de légumes. Vous savez, c'est pas mal les légumes, parce que ça ne demande pas beaucoup de soin. On plante les carottes, les navets, ça bouge pas, c'est docile, c'est fidèle, c'est assis, ça bouge pas. Tandis que la vigne, ça demande des vrais soins. Il rêve d'avoir un jardin de légumes, plein de navets, là. Et Jézabel, l'épouse gentille, adorable, apparemment soumise. Jézabel, ça veut dire sans cohabitation. En réalité, Jézabel ne partage pas le pouvoir. Mais elle peut le prendre par ruse. Et c'est pas forcément l'apanage des femmes, croyez-moi. Et donc Jézabel vient et elle lui dit, mais enfin, t'es le roi en Israël, mais comment on ose te résister? Mais comment? C'était bien le roi. Et elle dit à Naboth, mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et Naboth, bon, il faut pas trop savoir ce qui va se passer. Alors, on voit déjà des caractéristiques qui sont intéressantes. On prend en 1 Roi 21, si vous voulez le camp le fermer, verset 2, et Acab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. » Donc vous voyez, mais on est d'accord, hein. Et puis donc au verset 8, donc elle usurpe Jézabel, l'esprit de Jézabel. On peut, les deux grandes appellations, c'est manipulation et usurpation. Usurpation d'autorité, manipulation. Elle ne vient pas avec des gros sabots, elle vient d'une manière très subtile. Elle écrivit au nom d'Acab des lettres qu'elle scella du sceau d'Acab. C'est-à-dire qu'elle lui vole même son sceau et sa signature. Intéressant, hein? Soi-disant pour son bien. Soi-disant pour lui rendre service. Et on sait ce que Jézabel va faire. Elle va pas tuer Naboth directement, elle est beaucoup trop maligne. Elle va faire assassiner Naboth en par les autorités civiles, en utilisant des faux témoins. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est exactement ce qui a été fait contre Jésus. Les pharisiens ont fait appel aux tribunaux civils, ont suscité des faux témoins pour se garder les mains propres. C'est vraiment un esprit qui s'arrange pour avoir toujours l'air gentil, doux, amoureux, tendre, soumis, fausse soumission, mais qui fait plein de choses par derrière et qui n'a qu'une chose, on verra un petit peu tout ce qui, toutes les caractéristiques de Jézabel à travers toute cette historique-là. Donc, une des caractéristiques de Jézabel, c'est toujours d'utiliser des faux témoins pour faire aboutir ses projets. Faux prophètes, faux prêtres, faux témoins, recours à la justice civile pour se laver les mains, comme Pilate. L'intimidation, c'est aussi une des caractéristiques de Jézabel, l'intimidation et la menace. On prend 1 Roi 19:2 et vous allez voir que ça a tellement, c'est tellement fort, c'est un esprit tellement puissant que ça a cassé Élie. 1 Roi 19:1. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il... Alors déjà on voit qu'Acab il rapporte tout à sa femme. Hein. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Parce qu'on sait que Élie a zigouillé, a égorgé tous les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent, que les dieux. Elle est l'épouse du roi d'Israël, mais elle a gardé ses dieux. Que les dieux me traitent dans toute la rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et à la suite de ce message, Élie, qui vient d'accomplir des exploits extraordinaires, est littéralement cassé, tombe dans la dépression, il va errer 40 ans dans le désert, il demande la mort, et il est détruit. Donc c'est un esprit d'intimidation très puissant. Cet esprit a pour mission de s'attaquer à l'Église et de détruire la vigne. Parce que la vigne, quand on regarde la suite, puisqu'il y a eu des prophéties qui ont été faites de la manière dont Naboth finirait, dont la manière dont Jézabel finirait. Jézabel finit dévorée par les chiens, mais Acab finit, lui, dans un champ. C'est le champ, la fameuse vigne de Naboth, c'est devenu un champ de friche. La destruction a été totale. C'est-à-dire la destruction de la vigne, c'est la destruction de l'Église. Donc c'est la manière, c'est un des grands esprits, une grande puissance démoniaque. C'est pour ça que l'Apocalypse nous en parle. Qui, en soudoyant par l'idolâtrie, par les faux prophètes, elle se dit prophétesse, mais c'est une fausse prophétesse. Elle prétend dire la vérité, mais elle ne dit pas la vérité. Elle prétend détenir la vérité, mais elle ne détient pas la vérité. Et elle détruit l'Église. Elle n'en fait même plus un jardin de légumes. À la fin, c'est plus qu'un champ de friche. Destruction totale de l'Église. C'est pas un petit esprit. Ce qui est beaucoup plus... Alors, on va dire un peu pour les caractéristiques de Jézabel, de Saint-Esprit, ruse, manipulation, mensonge. Ça, ce sont les caractéristiques de l'esprit qui peut nier l'évidence. Il y a un orgueil monumental, même quand on la met devant la vérité, nie. Apitoiement, ça fait partie de ces artifices de manipulation. Apitoiement. Donc, on l'a vu, les faux prophètes, les faux témoins. Séduction. Séduction. Jézabel, son mari, elle le séduit. Mais attends, c'est toi qui es le roi en Israël. Elle a l'air douce. Achat des âmes. On veut acheter les âmes. On achète la vigne de Naboth, puis on le fait forcer. On fait de la promotion. Tous les gens qui sont d'accord avec vous, on les met dans les postes. Pour les acquérir comme alliés. On leur donne des postes d'honneur, comme elle l'a fait. Elle est entourée de courtisans à sa table. Elle les reçoit. Fausse humilité. « Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, d'une manière générale, dans l'Église, on est là et puis on dit « Ah, c'est une Jézabel, ah, Jézabel !» On parle que de Jézabel. Mais il n'y a pas de Jézabel s'il n'y a pas un Akab. Et on va voir qui est Akab, et c'est pas forcément celui qu'on croit. Alors on va comprendre pourquoi Jézabel a pu s'introduire dans le peuple d'Israël. Élie jamais n'est allé dire à Jézabel, n'est allé l'accuser et lui parler. Il a simplement annoncé ce qui lui arriverait. Élie a confronté Akab. Je cherche simplement...